Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que chacun de nous reçoive de lui la vie, la joie profonde et la paix parfaite, qui seuls viennent de Dieu. Amen. Levons-nous pour chanter donc notre premier spontané. On a déjà la mélodie.
Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur.
Récemment, mais il s'agit de nous retrouver donc pour prendre quelques forces spirituelles et peut-être de nouvelles significations sur les Écritures qui ont toujours quelque chose à nous dire et à dire au monde. Alors écoutons le psaume numéro 100 en guise de louange. Acclamez l'Éternel, terre entière. Servons l'Éternel dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce en bénissant son nom. Oui, l'Éternel est bon, éternel son amour et sa fidélité demeure à jamais. Amen. Alors nous allons chanter un psaume, non pas le numéro 100, mais le numéro 98, donc au début de notre recueil vert, 98, entonnons un nouveau cantique.
Je
par ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Un passage connu dans l'évangile de Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. À travers cette exhortation célèbre qui nous parle de synagogue, bien sûr, ça nous rappelle l'époque il y a 2000 ans, mais c'est aussi pour chacun d'entre nous la tentation de chercher de faire le bien, mais aussi avec un petit intérêt, pas forcément financier, mais l'intérêt d'être admiré, d'être apprécié. Alors, c'est toujours un travail intérieur, et écouter ces paroles-là, c'est toujours utile pour chacun d'entre nous, pour s'élever spirituellement. En méditant là-dessus, nous pouvons chanter notre spontané.
Ta volonté, Seigneur mon Dieu, devient ta sagesse. Fais-moi vouloir ce que tu veux.
Éternel notre Dieu, nous voulons te confier notre vie et tous ces moments où nous ne sommes pas en adéquation avec ta volonté, tous ces moments où nous nous mettons en avant à travers de belles choses, mais ce n'est pas toi que nous mettons en avant. Ce n'est pas toujours un témoignage des forces que tu nous donnes pour arriver à pratiquer le bien, le partage, d'une manière ou d'une autre. Il est plus facile pour nous de montrer haut et fort le bien que nous faisons, en oubliant qui en est l'origine. Seigneur, lorsque cela peut nous arriver, pas forcément dans nos actions, mais déjà dans nos pensées, eh bien, puisses-tu nous aider à nous tourner d'abord vers toi, pour effacer ces aspects négatifs de notre personnalité, afin que tu sois seul le maître de notre vie. Amen. Alors nous chanterons ainsi notre spontané.
J'ai tout remis entre tes mains, tous mes fardeaux, toutes mes peines. Ce qui m'angoisse et qui m'enchaîne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre
recevoir les paroles de libération. Peut-être nous arrive-t-il d'entendre une réflexion de ce genre, la confession du péché, la repentance et le pardon, ces pratiques, ça permet comme ça aux gens de recommencer tranquillement leurs bêtises et puis hop, tous les dimanches, on efface ça. Ce sont des réflexions qui existent, dites de cette manière ou d'une autre. Eh bien, s'il nous arrive d'entendre cela, et parfois même peut-être de le penser, nous pouvons répondre que non, ce n'est pas facile, car nous venons de chanter « J'ai tout remis entre tes mains ». Ce n'est pas simple de tout remettre, toute notre vie, entre les mains du Seigneur. Si c'était si facile, ça se saurait. Et c'est justement parce que ce n'est pas facile qu'on a besoin d'entendre une parole qui dépasse nos propres capacités. Nous sommes qu'humains. Mais Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous pardonne, c'est-à-dire qu'il efface ces imperfections qui sont en nous, qui nous donne les forces pour avancer, sans quoi ce serait évidemment impossible. Le pardon est donc une libération par celui qui, totalement innocent, a donné sa vie, est mort sur la croix et ressuscité pour que nous soyons ressuscités et pardonnés. Alors cette libération, elle est réelle, elle est pour chacun d'entre nous, et ainsi nous pouvons donc chanter notre reconnaissance.
Que toute la terre acclame ton nom, Jésus notre frère. Notre pardon, que chacun s'incline devant ta grandeur, toi seul en es digne, à toi seul honneur.
Préparons-nous à écouter les Saintes Écritures dans la prière. Éternel notre Dieu, nous faisons appel à toi, appel à l'Esprit, à l'énergie divine, afin que nous puissions toujours être enrichis spirituellement par ta parole, qu'elle puisse nous porter à cultiver l'élan vers toi et vers les autres, qu'elle puisse nous réconforter dans les épreuves, nous donner des forces nécessaires pour la vie de chaque jour, la vie personnelle, la vie en Église, la vie dans la société. Amen.
Pour aujourd'hui, je vous propose d'écouter quelques lectures sur le thème du don. Alors, le don, c'est un thème vaste et puis qui est assez propice à l'entrée imminente dans le temps que l'on appellera le temps du carême, c'est-à-dire de préparation à Pâques, le cœur de la foi chrétienne. Puisque nous croyons en un Dieu qui a donné sa vie en Christ pour toute l'humanité. Alors d'abord, nous écoutons donc des extraits du Nouveau Testament dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, versets 9 à 13. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » On poursuit chez Marc, au chapitre 12, versets 38 à 44. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes
qui aime à se promener en robe longue, à être salué dans les places publiques, qui recherche les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévore les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et nous poursuivons avec les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter alors un autre psaume, le psaume 72, 72. En nous levant, 72, revêt Seigneur de ta justice.
Qui règne sur tout.
dont on comprend, de par leur statut social, qu'ils ont une vie aisée, ils l'ont pas volé. Mais bon, ils ont donné beaucoup, mais ce beaucoup qu'ils ont donné, par rapport évidemment à cette veuve, ne représente pas un véritable don de soi. Alors que pour elle, avec le peu qu'elle a, elle a tout donné. Donc bien sûr, c'est une leçon pour ne pas s'arrêter aux apparences et pour montrer aussi le cran, il faut en avoir, de cette femme qui, on peut imaginer qu'elle sait qu'elle est regardée. Et donc, elle peut avoir honte. Imaginez la honte. Qu'est-ce que je viens faire ici pour donner peu en apparence? Comment est-ce que ça va être pris? Le quand dira-t-on? Le quand dira-t-on, ça en connaît tous. Eh bien, elle a du cran de faire ça. Elle a une certaine force, elle a un certain courage. Donc, c'est un engagement. Là, nous avons une personne engagée. Et engagée jusqu'au bout. Donc, il y a l'âge, il y a peut-être la maladie, il y a évidemment la peine, parce qu'elle est veuve, et les difficultés financières qui vont avec. Comme on dit, elle a beaucoup d'épreuves dans sa vie. C'est ce qui semble le plus logique. Eh bien, ça n'empêche pas de donner l'essentiel. Non, ça ne veut pas dire qu'elle va se retrouver totalement à la rue. Il ne s'agit pas de tout donner. Ça, c'est un extrême qui serait stupide. On comprend bien, il faut bien avoir son pain quand même. Bon. Mais elle va donner voilà, ce qui est fondamental. Parce que, pour elle, c'est une manière de dire que c'est la présence de Dieu, la foi, qui est le plus important. Et donc, elle répond à cela, à sa manière, avec ce don de pas grand-chose par rapport aux autres, mais de tout, ou de presque tout, pour elle. Donc, le don, offrande ou autre, eh bien, c'est d'abord un choix personnel. Personne ne peut obliger quelqu'un à donner, sinon, bien tout simplement, ça ne s'appelle plus un don. Le mot perd totalement de sa valeur. Un exemple concret, une seule petite parenthèse. Lorsqu'il y a des personnes qui viennent de décéder, qu'on rencontre la famille, parfois ils nous disent « ça coûte combien ?» Comment ça coûte ? Le culte, il ne coûte pas en tant que tel, mais l'Église a besoin de dons pour l'électricité, tout ça, les traitements des pasteurs, les impôts, ce que vous voulez. Bon, si je vous dis ça, c'est tant, ben c'est plus un don. C'est comme si vous achetiez quelque chose. Et c'est pas dans l'esprit, on l'a particulièrement de l'Église protestante, il faut le dire. C'est pas dans notre esprit, c'est pas dans notre philosophie. Ce serait plus pratique pour eux, il est vrai, si on leur disait c'est telle ou telle fourchette. Non, je refuse. Et moi, dans l'esprit du protestantisme, on ne doit pas faire ça. Certains le font. Bon, on demande, bien sûr, mais un don, c'est un don. Si je vous dis, c'est, je ne sais pas, 50 ou 500 euros, c'est plus un don, parce que vous êtes déjà influencé. C'est pratique, je dis, bon, ben, je sais ce que je vais donner, voilà. Mais ce n'est pas un don. Le don, ça vient de soi. Ça vient évidemment de nos possibilités financières, mais c'est d'abord un choix personnel. On ne peut qu'inciter, qu'exhorter, mais on n'a pas à imposer un tarif. Sinon, c'est comme si l'Église était, notre communauté, donc, était un endroit comme une entreprise. On vend des choses. Bien sûr, on ne vend rien. On parle de la grâce, de l'amour de Dieu gratuit pour les personnes, pour les communautés, pour l'humanité, en fait. Donc, on ne va pas dire oh, ça coûte tant. Mais par contre, évidemment, on n'est pas pur esprit. On vit dans un monde matériel et on a besoin d'argent, mais ça s'appelle un don. Voilà. Et on n'a pas à savoir qui donne quoi, etc. Chacun le sait en son fort intérieur. Et puis, comme dit le don, ce n'est pas que de l'argent, même si on en a besoin. Le don, c'est un moment. Ça peut être une heure par semaine pour faire quelque chose pour aider. Et quand tout le monde met la main à la pâte, par exemple dans notre paroisse, ben, ça fait avancer les choses. Ne serait-ce qu'aider, ben, oui, pour faire un peu de ménage dans le temple, ben, on y est bien. Et ça change les choses. C'est une petite aide. Mais ça change les choses quand on se sent bien dans un endroit, plutôt qu'un endroit poussiéreux et poussiéreux. On n'a pas envie d'y aller. Alors, bien sûr, donc, le don, l'offrande de soi, de sa vie, c'est quelque chose qui se vit au niveau communautaire. C'est donc ce que nous avons entendu avec le passage des Actes des Apôtres, où il s'agit des premiers chrétiens, qui sont beaucoup dans le partage. Alors, évidemment, c'est un passage, si on le prend tout seul, on peut se dire, waouh, les premiers chrétiens, vraiment, C'était impeccable, ils étaient parfaits. Non, ils n'étaient pas parfaits, parce que c'était des êtres humains comme nous. Il suffit de continuer quelques versets, de lire les lettres de Paul, et on a vite compris qu'il y avait des problèmes dès le départ. Il suffit qu'il y ait quelques êtres humains, et il y a des soucis. Hein, c'est le symbole déjà d'Abel et Caïn. Deux frères, et déjà il y a des problèmes. Bon, donc une communauté, forcément. Mais ça n'empêche pas donc de vivre sa foi en communauté. Donc on a la question du partage, on a la question des biens, hein, donc on parle bien des biens immobiliers, des biens matériels, mais on peut se dire aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans une situation très différente. Cependant, nous voyons des gens qui font des legs pour l'Église. Et on en connaît. D'ailleurs, on est au bénéfice. La paroisse de Saint-Adrien, comme d'autres paroisses, nous sommes au bénéfice de gens qui ne sont plus de ce monde et qui ont eu cet engagement de foi, parce que c'est un engagement de foi, que de faire un legs pour la paroisse ou d'autres églises, c'est pas la question. Mais ça, c'est une manière de vivre sa foi. Ceux qui le peuvent, évidemment, ceux qui le peuvent. Et dans d'autres paroisses, c'est le même cas. Ben, ça permet d'avoir, vous voyez, les salvarets. Et puis, pour d'autres, dans d'autres paroisses. Ça, c'est une manière de vivre la foi qui ressemble à celle du début, hein, de ce passage un peu idyllique qu'on a entendu, où ils se retrouvaient. Mais le plus important, c'est quoi dans ce passage? C'est même pas le partage, c'est la simplicité. On va reprendre quelques mots. Donc, relisant cela, ça fait plaisir à entendre. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Bon, si nous, on faisait ça, alors, pour les retraités à la rigueur, il faut quand même faire d'autres choses dans sa vie que d'être dans un temple. Mais pour ceux qui travaillent, comment ils vont gagner leur vie s'ils passent leur journée après? Évidemment, il faut être aussi réaliste, n'est-ce pas? Bon. Ils rompaient le pain dans les maisons. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient chez eux. Rompre le pain, bah, c'est la Sainte Cène, hein, clairement. Et ils prenaient leur nourriture, donc là c'est le repas normal, si j'ose dire, avec joie et simplicité de cœur. On a quelque chose, voilà, de presque de spontané. Et ça, ce sont des choses bah, qui se vivent aussi. Quand quelqu'un va visiter quelqu'un d'autre qui est de la paroisse, c'est fraternel, parfois c'est spontané, c'est même pas calculé, tel jour que je vais faire ça. Un petit bonjour, un café, quelque chose comme ça. Et voilà des choses très simples qui permettent de cultiver la vie de l'Église. Au-delà du ministère, des choses bien cadrées, ben ça commence par ça. Simplicité de cœur, tout simplement. Cependant, évidemment, cette manière de vivre, donc de donner quelque chose, de son temps, de l'argent, quoi que ce soit, doit être utile pour la société. Et là, je crois aussi qu'il y a des choses bonnes qui se font, notamment par les gestes de diaconie, comme l'entraide protestante, ou parfois des gestes personnels, connus ou pas connus, des gens de nos églises, qui aident eh bien, ceux qui ont risqué leur vie, qui n'ont plus rien dans leur pays d'origine. À Saint-Agrève, il y a des personnes comme ça, des gens qui sont menacés clairement de mort s'ils rentrent chez eux. Et toute la famille hein, menacée de mort. Quand je vous dis ça, ce sont des exemples réels, hein, malheureusement. Menacée de mort s'ils rentrent chez eux. Toute la famille passe. Bon. Et pas très loin de chez nous. Des pays pas si loin de chez nous que ça. Bon. Et bien voilà, l'Église est dans son rôle. Avec des gens qui ne sont pas forcément croyants d'ailleurs, dans des associations laïques. Et bien l'Église est dans son rôle. Il y a des choses. Parce que je me rends compte que quand on est dans un moment de prédication, on exhorte toujours et on demande. Mais aussi, ça peut être le moment de rendre grâce à Dieu pour ce qui se fait de bien, de beau, de juste, pas pour mettre en valeur ce qu'on fait bien. Parce que ça, on va voir que c'est pas bon. Mais c'est normal aussi de se dire, oui, il y a des choses qui sont faites. Ben, ça fait plaisir. On peut se dire que si on était à la place de ces personnes qui viennent de pays pas trop loin ou un peu plus en Orient, eh bien, on serait reconnaissant de cette entraide. Alors, il y a quelque chose de beau là-dedans, on peut le dire, voilà, avec simplicité. Mais bien sûr, il y a toujours le danger de se mettre trop en valeur. C'est pour ça qu'on a rappelé certaines élites, on dirait aujourd'hui, à l'époque de Jésus. Alors, les longues robes, alors non, ça, enfin, sauf des cas exceptionnels, généralement, pas trop. Les élites n'ont pas forcément des longues robes, c'est plutôt des costumes, qui parfois peuvent coûter des milliers d'euros, vous le savez. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, eh bien, il y en a qui se montrent. Regardez ce que je fais. Regardez, je suis allé voir telle association caritative, donc je suis quelqu'un de bien, donc votez pour moi. Bon, ça existe depuis toujours. Mais évidemment, quand on a ça, ben, il faut regarder un peu, hein, faut avoir un esprit critique, un recul. Se dire que c'est pas forcément d'une grande franchise. Alors il faut discerner, être vigilant, ne pas tomber dans le panneau, et puis bien sûr essayer de ne pas faire de cette manière-là. Combien d'associations caritatives font un bon boulot, confessionnel ou pas. Mais des fois, quelle est la tentation, quel est le risque pour les personnes qui sont membres de ces associations? C'est peut-être d'en parler un peu trop. De dire, voilà ce que je fais, grâce à moi, grâce à mon argent, etc. Parfois, les gens ne s'en rendent pas compte, on ne peut pas mettre ça sur le dos. Mais parfois, vous avez des gens qui insistent. Et puis, parfois, c'est sur les écrans. Pour des grandes causes fort respectables, et ce sont des stars, ce sont les élites d'aujourd'hui. Alors à mon avis, qui ne sont pas du même niveau que les élites des rabbins et des pharisiens à l'époque de Jésus, mais ça c'est une autre affaire. Hein. Vous avez des stars qui se montrent pour bien des occasions, pour dire allez-y, donnez des sous. Des stars qui font des chansons, alors ils ne gagnent pas forcément d'argent sur ces chansons. Mais par contre, c'est une reconnaissance du public. Donc il y a forcément un retour. Pour dire, regardez ce que nous faisons, nous, pour les pauvres. Charité business. C'est pour ça que moi je suis toujours très dubitatif et je n'apprécie pas ce genre de soirée télévisée qui monte un peu. Voilà, ça sent quelque chose de malsain, de pas très franc. Même si la cause est toujours noble de donner, notamment pour des personnes qui ont des maladies orphelines ou des maladies graves, la question se pose même pas. Mais la manière de le faire, d'une manière qui est un peu malsaine. Alors ça existe depuis toujours, à l'époque évidemment il n'y avait pas les écrans, mais c'était les places publiques, c'était ceux qui se montraient, qui voulaient les premières places dans les synagogues. Autrement dit, on est les meilleurs, on est les plus forts, faites comme nous. Sauf que lorsqu'il y a de l'hypocrisie, il ne faut pas que le peuple suive. C'est pour ça que Jésus a des paroles dures quand il dit hypocrite, c'est un mot dur. Alors pour la société, pour notre engagement dans la société, quelle que soit la manière d'apporter quelque chose de notre talent et parfois de notre argent, eh bien, ce qui nous est proposé, c'est la franchise, la simplicité, simplicité de cœur, ne pas faire ça pour être vu. Je crois que c'est vraiment dans l'esprit de ce qui se vit aujourd'hui, notamment dans une certaine histoire protestante, fait ça dans la simplicité, dans la discrétion. Je crois que nous sommes interpellés pour continuer sur ce chemin-là. Et puis, bien sûr, de ne pas désespérer des difficultés que nous avons, personnelles, ecclésiales, et de celles qu'il y a dans notre société. L'histoire de l'Église en a vu bien d'autres, et des choses bien plus graves. Je ne vous fais pas de dessin, et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, nous pouvons garder la confiance en Jésus-Christ qui lui a donné toute sa vie, sans regarder à nos difficultés de péché, sans regarder à parfois nos propres hypocrisies. Il nous garde comme nous sommes en tant que disciples, comme des frères et sœurs, à nous de poursuivre dans la simplicité de cœur, pour nous, car c'est bon pour nous, pour l'Église et pour le monde. Amen. Le 4405, c'est mon joyeux service. 44-05.
qu'on le connaît un petit peu, parce que moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté. Sinon, on en prend un autre. Hein. On va prendre celui d'après, un peu plus loin, le 4407. Tu me veux à ton service. C'est dans le même esprit, hein, évidemment, hein, dans le même état d'esprit, mais je pense qu'il est un peu plus connu. Et merci à Eliane, qui a tout au dernier moment aujourd'hui.
Je
Lorsque les apôtres se retrouvent ce mois d'avril de l'an 30 à Jérusalem pour fêter la Pâque, leur Pâque à eux, Pessah, la Pâque juive, ils ne se doutent pas de ce que va leur dire le maître, Yeshua. Ils ne se doutent pas du nouveau sens que va prendre cette fête de Pâques qui, pour nous, s'écrit avec un S, s'écrit au pluriel, parce que pour nous, la résurrection de Jésus-Christ et la Sainte Cène, ce sont deux Pâques à la fois. Pâques veut dire passage. Le passage du peuple hébreu à pied sec, qui était poursuivi par le dictateur Pharaon, c'était une libération. C'est pas notre histoire à nous, c'est pas l'histoire de notre peuple, mais c'est l'histoire du peuple de Jésus. Alors, quelque part, c'est livré avec le sacrement de la Sainte Cène, et bien sûr, la libération fondamentale, qui est ce passage de la mort à la résurrection, signifié déjà par le premier sacrement, le baptême. Plongé avec le Christ dans la mort, comme si on se noyait, mais en fait on ne se noie pas, on est libéré, on est ressuscité. Alors la Sainte Cène, dans une simplicité évidente, est aussi ce signe de cette résurrection, pas seulement celle qui nous attend, mais déjà des petites résurrections de notre vie de chaque jour. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et saint, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour ta gloire infinie et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux en chantant notre spontané répond.
Dieu fait vers nous les premiers pas, nous invitant à ton repas autour de cette table. Voici le vin, voici pour nous le grand festin.
Ce que nous appelons l'institution. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous prions. Père saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ton pardon. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Et comme les épis jadis éparses dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce fruit de la vie, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Amen. Nous voici donc invités par le Seigneur Jésus-Christ pour participer avec simplicité, simplicité de cœur, avec reconnaissance pour le don de soi que ce sacrement incarne. Nous pouvons donc nous approcher, puisque le Maître nous appelle, pour prendre part à la Sainte Cène. Et puis si nous désirons ne pas le faire, et cela ne regarde que Dieu et nous, eh bien nous sommes en communion de prière tout de même. C'est important aussi. Venez, car tout est prêt. Au moment de la Sainte Cène, ils étaient tous assis, sans doute sur des bancs, et même à moitié allongés. C'était, nous, ça nous fait bizarre, mais c'est la coutume de l'époque, c'est leur mœurs. C'est ainsi que cela se passait. Alors, nous nous souvenons aussi que lorsqu'il y a eu l'institution, qu'on a redit bien sûr tout à l'heure, eh bien, qui était présent? Tous les apôtres, j'ai bien dit tous, notamment celui qui va même trahir Jésus. En disant cela, je veux dire que Jésus accueille tout le monde, même, voilà. On est tous pécheurs, n'est-ce pas? Et c'est parce que nous sommes pécheurs qu'il a donné sa vie. Si nous étions des êtres parfaits, eh bien, on n'aurait pas eu besoin, non seulement qu'il vienne dans le monde, mais en plus que lui, innocent, donne sa vie pour chacun, chacune d'entre nous, ceux qui ne savent pas encore. C'est parce que, justement, on a toujours besoin de son aide, de sa présence, qu'on a besoin de ses nourritures spirituelles. Et le sacrement de la Sainte Cène est une nourriture spirituelle fondamentale, car il n'a pas été inventé par l'Église. C'est Jésus lui-même qui se donne à nous à travers le signe de ce pain partagé. Ce partage qui nous appelle à vivre comme nous pouvons dans le partage. Et de même, puisqu'il a donné un nouveau sens à la Pâque, nouvelle libération, ce fruit de la vie et du travail des hommes est le signe symbole du sang. Et le sang, c'est la vie dans la culture, dans la pensée juive. Le sang, c'est la vie. Donc donner son sang, bien sûr, c'est donner sa vie. Donner sa vie pour toute l'humanité. Et nous, nous faisons partie du petit groupe, mais grand groupe à travers le monde, qu'on appelle l'Église universelle, qui non seulement nous sommes au courant de cela, mais plus qu'être au courant, nous y croyons. Et nous tenons bon dans la vie de l'Église. Alors, si nous y croyons, c'est pour que d'autres puissent aussi y croire. Ne gardons pas cela pour nous. Le pain de la vie. Le Christ ressuscité. La coupe du salut. La coupe de la nouvelle alliance. Que rendrai-je au Seigneur ? Tous ses bienfaits sont sur moi. J'élèverai vers lui mes actions de grâce et j'offrirai un sacrifice de louange. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Nous allons donc reprendre nos places. Juste un petit mot, peut-être vous avez remarqué une habitude que j'ai. Lorsque je commence, je prends les serviettes et je les mets dans une forme particulière. C'est une étoile, bien sûr, c'est l'étoile de David. Le symbole fondamental de tout le christianisme, c'est la croix. Et bien sûr, en mettant l'étoile de David, c'est un rappel de nos ancêtres dans la foi. Certains disent les grands frères dans la foi, c'est-à-dire le peuple juif. C'est pour marquer les deux alliances, la nouvelle et l'ancienne qui perdurent toujours. Voilà. J'aime bien les symboles. Maintenant, nous pouvons reprendre nos places. Ce sera le temps des annonces et aussi de l'offrande, hein, de la collecte. On peut faire ça en même temps. Donc, c'est quelques nouvelles. On peut nous apprendre le décès de M. Jean Chazalet. Alors, ce sera une crémation et le temps de culte sera plus tard, sans doute même en été. Donc, on a le temps de voir ça avec la famille pour un moment officiel, un moment culturel. En ce moment, nous avons certains de nos conseillers et liturges qui sont ailleurs. Bernard et Sylvie sont de culte, de célébration, donc au Mazet. On tourne. Alors, en fin février, début mars, il y aura des moments un peu officiels et des moments forts. Pour Devecet, le samedi 24 février à 10h du matin, ce sera votre assemblée générale. C'est important qu'on soit tous au courant, puisque vous savez qu'on est en train d'unir ces deux associations culturelles. Devecet fera partie de l'ensemble de Sainte-Agrève, Mars, Beauvais, Saint-Germain-d'Auxerre. Et pour ce qui est de Sainte-Agrève, donc, ce sera le dimanche 4 mars. Juste la veille, parce que d'habitude, il y a un grand après-midi, après le repas, il y a un repas, le 4, 12h15, Lucie Vastivaré. Je parlais de l'aigle tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, il est temps de s'inscrire, comme ça s'est fait, après l'Assemblée Générale. Mais d'habitude, il y a un moment d'animation, ce sera la veille. La veille, donc le samedi 3 mars à 17h, où nous aurons un moment donc, de spectacle, de concert, qui aura aussi pour but l'aide aux migrants. C'est une manière de mettre en pratique, comme on le fait déjà, de mettre en pratique les exhortations, les enseignements qu'il y a dans la Bible, de manière concrète, pour ceux qui ont beaucoup plus besoin de nous que nous, des aides. Donc ce sera le samedi 3 mars à 17h ici. L'information est chez les frères et sœurs catholiques romains. Ça permet comme ça, à un moment, de se retrouver tous ensemble. C'est le groupe de Jean-Paul Fink que vous avez déjà vu ici, il y a 2 ans, sur le thème de la liberté, c'était ici même, et sur le thème aussi de la Shoah, qui devait faire un spectacle au Chambon le lendemain. Ils connaissent leur truc. Donc c'est un moment fort pour nous, et bien sûr, c'est aussi l'occasion, donc, d'aider un petit peu. Bref, c'est gagnant-gagnant. Et donc, le dimanche 4 mars, c'est l'Assemblée Générale de la paroisse de Sainte-Agrève, l'association culturelle du Coutisement, et aussi de l'entraide. Ce sera l'occasion de proposer un nouveau conseiller presbytéral, qui est Pierre-Henri Gras. Et donc, de prendre le moment du vote pour le faire rentrer au conseil presbytéral, qui devra être en gros, totalement changé en 2020, et c'est notre souci, nous avons besoin de relève, nous espérons que dans les 2 ans qui arrivent, on pourra avancer un petit peu plus. Nous vous en parlerons bien sûr encore un peu plus le dimanche 4 mars, On est attendu à 9h30 parce que ça commence officiellement à 10h avec un petit moment spirituel. Mais le temps d'arriver, de signer, nanana, les listes, tout ça, et de papoter, c'est normal. Bon, bien autant arriver un petit peu avant, et puis à 10h, on commencera. Et puis, bientôt, le Rencontrons-nous arrivera aussi. Donc, ce sera l'occasion de voir dessus les nouvelles, les propositions, quelques réunions de quartier. Et vous n'hésitez pas aussi, car on ne peut pas toujours deviner si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'une visite, qui n'osent pas le demander, à me le faire savoir. Je ne sais peut-être pas du jour au lendemain, mais bon, d'ici quelques temps, je me permets d'aller dire un petit coucou. Aussi pour une réunion de quartier, les gens n'osent pas trop voir un culte de maison. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps, chez Simone, au pont, une autre fois chez Les Roches. Bon, n'hésitez pas, c'est bien qu'on soit quelques-uns aussi à venir, ça montre le côté universel et collégial de l'Église. Les gens qui ne peuvent plus se déplacer et n'osent pas demander. On ne va pas embêter le pasteur. Ben si, c'est fait avec gentillesse, n'hésitez pas. Comme ça, on prend date et puis on prépare un culte avec simplicité, mais un culte liturgique à la maison. Prenons le temps de la prière d'intercession. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ainsi, nous pouvons nous tourner vers notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour le partage, le don de soi, qui existe réellement, concrètement, dans notre paroisse. Nous voulons te prier afin que tu nous donnes toujours les forces de poursuivre, d'une manière ou d'une autre, ce service, pour toi, pour l'Église, pour les autres. Permets que nous puissions être, à travers notre confiance en toi et notre raisonnement, dans le discernement des dons, des charismes. Permet que nous puissions déceler ceux qui peuvent apporter quelque chose à la vie de l'Église et que chacun d'entre nous puisse aider à développer les dons reçus afin de ne pas les gaspiller mais qu'ils soient mis à profit pour toute l'Église et à l'extérieur de l'Église. Seigneur, nous te prions pour l'unité de l'Église universelle en te rendant grâce pour toutes les occasions simples mais profondes qui nous permettent de nous retrouver avec des frères et sœurs aux convictions parfois un peu différentes, mais unis par le même Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous font souci et peine à cause du deuil, à cause de graves maladies, à cause de l'inquiétude pour la vie quotidienne et pour le lendemain. Permets que nous sachions que nous ne sommes pas seuls, que tu es présent avec nous, parmi nous, et que nous puissions aussi avoir l'audace de demander, de chercher des aides. Seigneur, nous te prions pour notre pays et pour ses dirigeants, ainsi que pour la sagesse des dirigeants du monde, afin qu'ils puissent t'écouter et ne pas écouter simplement leurs propres intérêts. Seigneur, permets que nous soyons des citoyens utiles, bienveillants, respectueux des autorités, mais d'abord respectueux des Écritures, qui nous appellent parfois à crier le désespoir de ceux qui sont volés, de ceux qui ne sont pas respectés, que nous puissions vivre à la suite des prophètes et du sens des lettres du Nouveau Testament, pour la justice, justice sociale, pour l'égalité. Seigneur, donne-nous les forces de vivre cela, non dans un esprit partisan, mais d'une manière constructive, au nom de notre foi et pour le bien de notre société. Enfin, Seigneur, nous voulons te prier pour les personnes que nous n'aimons pas assez, que nous n'apprécions pas vraiment. Permets que notre cœur soit changé par toi et sur le long terme. Et enfin, nous pouvons maintenant résumer notre prière, notre lien, communication avec Dieu, par ces quelques mots qui sont tellement forts de signification et qui nous unissent avec tous les disciples du monde entier de tous les temps. Ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi, d'exhortation. Lorsque nous entendons, réentendons certains textes, comme ce texte des Actes des Apôtres, où on marque qu'au début, l'Église, ils vivaient tout le temps ensemble, dans le partage, etc. C'est une réalité. À côté de cette réalité, il y a aussi les autres qui nous montrent qu'il y avait déjà des divisions, des problèmes, jusqu'à la lettre de Jacques qui accuse certains qui sont plus riches que d'autres de voler les pauvres, tout en étant chrétiens. Bon, nous avons de tout. Bah, l'Église, c'est toujours ça. Évidemment, le but est d'essayer de ressembler à ce qui nous élève plutôt qu'à ce qui nous divise ou ce qui nous mettrait soi-disant au-dessus des autres. Alors, pour cela, nous avons toujours la même chose, c'est-à-dire de savoir où nous souhaitons regarder, quelle est notre priorité. La priorité, ben, c'est de regarder vers celui qui a donné sa vie, par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous aide chaque jour à remonter la pente dans les moments difficiles, qui nous donne les forces à vivre chaque jour notre foi avec les autres et pour le bien de notre société. Cet envoi, donc, c'est quelque chose que nous faisons déjà. Nous sommes exhortés à poursuivre sur ce chemin qui n'est pas inconnu pour Dieu, même si pour nous, on ne sait pas toujours où nous allons. Il est présent, c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous bénit. Car c'est notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, qui vous garde, qui vous accompagne. Amen. Nous pouvons chanter notre dernier spontané. Quelques heures. À quelques heures.